à vivre Salle Pleyel avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Et c'est l'heure de la bas, si j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur. Allez, bip.
Tu tournes, et quand la musique elle s'arrête, tu t'assois vite. Non, tu dégages. Ils ont tout compris, hein. Ils s'amusent bien, hein. Allez, à plus.
Je suis soulagée d'avoir entendu M. Lordon parler comme il l'a fait. Depuis longtemps, je pensais la même chose. Je n'ai jamais osé le dire à personne, parce que tout le monde sait bien, de parmi mes amis, que je suis plutôt à gauche, même très à gauche de la gauche. Et je pensais qu'on allait prendre pour une lepéniste. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir qu'il continue et qu'il fasse réfléchir les gens.
Bonjour, je viens d'entendre l'émission avec Frédéric Lordon. J'ai beaucoup apprécié un de ses derniers livres sur la crise de 2008-2009, mais là, je trouve qu'il délire complètement avec l'euro. Si je repasse au franc, on aura, comme il dit, dévaluation de 25%. Bon, ça, c'est son affaire. Dans les années 80-83, on a eu une évaluation de 37% par rapport au Deutsche Mark. Mais en plus, les taux d'intérêt vont augmenter. Et si ça augmente de 5%, on a 100 milliards de plus à payer. Alors, comment ils financent ça? Merci à vous.
Si on sort de l'euro, a fortiori de l'Europe, ce sera la catastrophe, la misère, le chaos, la fin de la France. C'est marrant, il me semble avoir déjà entendu cette phrase-là, ou quasiment la même. Voyons. Ah oui, c'était en 36. Souvenez-vous, si on accorde les congés payés à ceux qui les réclament, ce sera la fin de la France, la catastrophe, le chaos. En 68 aussi, si on accorde ceux qui le réclament aux ouvriers, aux salariés, ce sera la fin de la France, la catastrophe, le chaos. Et puis, à chaque fois qu'une grande entreprise se voit face à des ouvriers en grève, mais si on vous accorde ce que vous demandez, ce sera la fin de l'entreprise, la catastrophe, le chaos. Et pourtant, on est toujours là, le pays est toujours là, les entreprises sont toujours là. Quant à la paix grâce à l'Europe, malheureusement, il faut être un peu cynique. Si on a la paix en Europe, c'est parce que la France et la Russie ont l'arme nucléaire, pas parce que la volonté des hommes et la sagesse des hommes s'est trouvée augmentée par la création de l'Europe. C'est triste, mais c'est comme ça.
Bonjour Daniel Mermet, je suis professeur de droit européen. Votre invité d'aujourd'hui raconte à peu près n'importe quoi et cela devient extrêmement pénible d'entendre des donneurs de leçons d'Europe alors qu'ils ne connaissent pas les règles. Pour la monnaie, c'est effectivement une compétence de l'Europe, de l'Union européenne et de la Banque centrale. Ce n'est pas le cas pour les politiques économiques qui relèvent de la compétence des États. Il y a simplement un encadrement européen qui permet de mettre en place un cadre commun, qui est d'ailleurs en train de se mettre en route tout doucement. Premièrement, donc, les traités, ça se lit. À propos des traités, c'était qu'une noire sur blanc ce que je viens de dire. Il faut rappeler, et contrairement à ce qu'il dit, qu'il y a eu un débat démocratique, qu'il y a eu une délibération politique. Rappelons-nous la révision de 92 pour le traité de Maastricht, la révision de la Constitution, du débat qui a suivi la loi d'autorisation de ratification du traité, qui, je vous le rappelle, a été un référendum. Même chose pour la Constitution européenne. L'actuel traité de Lisbonne a fait l'objet d'une discussion devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, l'adoption d'une loi d'autorisation de ratification. Dites donc les gars, les citoyens européens, c'est à vous de faire le boulot. Les parlementaires ont fait le leur. Il y a eu un débat politique, une délibération politique. Donc là aussi, il faut connaître les règles juridiques du traité. De grâce, Daniel, invitez des juristes qui vous donneront les clés d'explication des règles du traité en toute objectivité. Merci, bonne chance.
Bon ben, s'il confesse, ça marche. Moi, je veux bien, mais alors compromis aussi.
Sur la période du 10 février au 7 mars, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, nous informe que France Inter a donné en pourcentage de temps de parole 34% à l'UMP, 30% au PS, 15% au Front National, 2,45% au Parti de gauche et 0,42% au PCF. Cherchez l'erreur, merci le service public. C'était Jean-Paul de la Loire-Atlantique.
Mais non, Jean-Paul de la Loire-Atlantique, c'est ce qu'il fallait faire. C'est la règle imposée par le CSA, c'était que les temps de parole correspondent aux résultats des élections précédentes. Alors ça, c'est la règle imposée par le CSA. Et nous faisons partie des bons élèves selon le CSA. Selon les CSA. D'autres, c'est moins brillant. Vous pouvez apprendre tout ça sur quoi donc? Bah, tiens, sur le site du Nouvel Observateur, ils ont fait un truc là-dessus. Municipal, radio et télé ont-elles respecté la parole, le temps de parole? Et vous verrez que nous, France Inter, on est très très bien placés. C'est pas le cas de tout le monde. Alors évidemment, après, c'est la vision que le CSA peut avoir du temps de parole. Ça ne dit rien du tout sur le contenu. Si on a un candidat ou ressortissant d'un parti qui dit n'importe quoi pendant une minute, ben on s'en fout du contenu. Ce qui compte, c'est le temps durant lequel il parle. Donc c'est quand même un classement et une façon de mesurer les choses qui est assez discutable, disons. Tout aussi discutable, l'Europe et l'euro. Vous avez vu, le débat ça va chauffer d'ici aux, j'espère au moins, enfin nous espérons, d'ici aux élections, même si quand même la critique, les critiques sont quand même assez nombreuses parce que les résultats sont là. On n'est plus, je crois, invitons des juristes, on peut inviter des juristes, mais enfin on préfère inviter des gens qui ont le sens commun, qui font un peu de politique, un peu d'économie. Les juristes arrivent toujours à retourner les choses dans tous les sens. Nous les respectons infiniment, mais enfin, on connaît la stratégie, les limites de cet art bien connu. L'Europe est vraiment dans l'état où elle est aujourd'hui, ne trompe plus personne. On l'a vu en 2005, le point de vue au moins des Français et d'autres en Europe sur la vraie nature de. Évidemment, dans ma génération, l'expression sans frontières, c'était formidable. Sans frontières, c'était pas seulement une formule, mais c'était un idéal. Après un siècle de malheurs, de crimes, d'horreurs, de larmes et de sang, attribués au nationalisme, aux frontières, à toutes ces barrières entre les hommes, eh bien, sans frontières, c'était très bien. Et cet avenir radieux que l'Europe semblait devenir était symbolisé par, eh ben, une monnaie commune. À défaut, en attendant de faire un peuple commun, commençons par faire une monnaie commune. Sauf que cette monnaie commune a permis à la dictature financière de s'implanter, elle et seulement elle, et de martyriser les peuples comme on peut le voir autour de nous, en Grèce, en Portugal, en Espagne et un peu partout. Et c'est des peuples qui ont perdu leur souveraineté démocratique. On est en train de perdre notre souveraineté démocratique. Alors, parlant comme je le fais, je dis, ah mais tiens, c'est marrant, maintenant, le Front National vous parle à 15h. Le Front National vous parle à 15h. Non, on peut très bien avoir ce genre d'analyse, ce genre d'approche, et ne pas faire partie de ceux qui ont volé, justement, ces analyses, parce qu'elles étaient bonnes et qu'elles correspondaient à la sensibilité générale. Sauf que ceux qui les avaient émises, qui les avaient mises en lumière, ben, ont laissé tomber les choses en cours de route ou n'ont pas trouvé le débouché politique. Et on en est là. Mais l'histoire n'est pas finie, le combat n'est pas terminé, le débat continue, et on le continue aujourd'hui avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, hier, nous a dit un peu de quoi était fait le livre qu'il publie ces jours-ci, La Malfaçon, Monnaie européenne et souveraineté démocratique. Le sous-titre dit assez bien ce qu'il veut dire, et comment il l'articule, comment il limite aussi les risques qu'il y aurait à sortir de l'euro. Il les a exposés hier, il a exposé aussi les avantages qu'il y aurait. Donc la question est là, et l'autre question, c'est celle de la souveraineté démocratique, ces peuples qui perdent leur souveraineté, mais pas forcément en faveur d'un nationalisme replié et étriqué. La question est là, elle n'est pas simple et elle suppose une mobilisation de tous. Et on est là pour ça, jusqu'à 16h au moins ou presque, dans la basse. Si j'y suis, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel.
Bonjour les AMG.
Nous vous annonçons un café repère à Charleville-Mézières dans les Ardennes.
Ce sera au bar Le Baratin, 25 quai Arthur Rimbaud.
Mardi prochain, 8 avril, à partir de 18h.
Et nous échangerons sur l'Europe.
Nous vous attendons nombreux.
C'était Christophe et Alexandra de Charleville-Mézières.
Bonjour. Donc, le vendredi 4 avril de 18h30 à 20h30, à Saint-Maximin à la Sainte-Baume, la DJ vous accueille à Charade pour un café repère. Alors, le thème, ce sera l'agriculture biologique. Charade, c'est super simple à trouver. C'est là où il y a la gare des Cars à Saint-Maximin, juste à côté des terrains des boulistes. Voilà, on vous attend nombreux pour des échanges multiples et variés. Frites maison excellentes, voilà, à Charade. Gros bisous, à demain, merci.
Oui, bonjour. Voilà, je téléphone, c'est pour lancer un coup de gueule un peu, parce que c'est toujours les mêmes qui parlent, il y en a 5 ou 6, là. Il y a Régis de Nîmes, après il y a l'autre Ciao Viva, ça tourne en rond, quoi, c'est complètement antidémocratique. Voilà, c'était pour lancer un coup de gueule. C'est Jean-Louis de la Gironde. Au revoir.
Bonjour, moi, je m'appelle Colline, j'ai 9 ans et demi, et moi, mon préféré, c'est Salopette. Au revoir.
Que la construction européenne et ses élites ne veuillent rien avoir à connaître des avis des populations, on le sait maintenant depuis un moment et on le sait de toutes les manières possibles.
La construction de l'Europe a permis d'affermir la paix.
Il y a peu de chances que l'Europe des peuples se construise jamais, pour toute une série de raisons, dont la moindre est que les élites politiques ne le veulent pas.
L'Europe, elle existe.
Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance. Cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Cette Europe non européenne. Cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage. Je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine.
À d'autres.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Frédéric Lordon. La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique.
Flight number 2, arriving from New York.
Je veux dire, lorsqu'un événement politique aussi significatif que le non au référendum constitutionnel de 2005 se produit, qu'il n'en est tenu rigoureusement aucun compte par les élites politiques des deux bords, au point que le même texte a quelques différences près, est resservi 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard sous la forme d'un traité soumis cette fois-ci exclusivement à ratification parlementaire puisque chat est chaudé craint désormais l'eau froide, on sait exactement où se situe le débat démocratique en France et en Europe, c'est-à-dire dans le caniveau.
Il faut changer ce modèle ultra-libéral dont on voit qu'il est en réalité un système de casse économique et de casse sociale.
Je ne suis pas décidé à abandonner la critique de la finance sous prétexte que le Front National s'y met. Je ne suis pas décidé à abandonner la thématique de la lutte des classes sous prétexte que Marine Le Pen en a parlé.
Casse économique et de casse sociale.
Et si nous considérons que chaque fois qu'un de ces thèmes est évoqué, il est irrémédiablement souillé, alors ça va très très mal se terminer pour nous.
Un jour, on fera une heure entière, je vous promets, pour un petit modelé.
Un petit modelé.
Oui, 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 oui.
Le modelé de la cuisse de la Vénus au miroir de Velázquez. Vous le voyez, le dos de la Vénus au miroir, vous en souvenez de ce dos et de ce petit modelé avec un léger reflet à peine. Aïe, 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 aïe. L'angelot qui tient le miroir, la Vénus. Eh bien, Velázquez, il n'avait jamais osé faire ça. Il n'avait jamais osé peindre de dames dans leur grâce et dans leur beauté, dans leur magie, dans leur fascination, la fascination qu'elles exercent sur nos âmes et sur nos sens. Où est-ce qu'il avait eu cette idée ? En Italie. En Italie, en voyant des Titiens. En voyant des Titiens. Velázquez s'est dit ça, il faut que je fasse ça en rentrant à la cour, parce qu'il était peintre de la cour. Il fallait que la cour acceptât, et la cour acceptât. Ça, c'est l'Europe, non ? Elle est belle celle-là, hein ? Il faudrait la travailler plus, cette histoire, et ce reflet, ce modelé de la Vénus. Ça, c'est l'Europe. Et on en est loin, hein ? Quand vous voyez la tête de Barroso. Vous voyez un peu les élections qui se profilent. Cet auditeur très sympathique qui nous dit « Mais invitez des juristes !» Mais non, on veut inviter des peintres. On veut inviter Velázquez et le Titien, et que l'un nous dise comment il a inspiré l'autre et comment l'autre a eu l'idée de cette grâce infinie, parce que c'était, attention, représenter le corps d'une femme et y trouver du divin. C'était un progrès extraordinaire. C'était l'humanisme qui était en route, c'était l'universalisme qui était en route. Et ce petit reflet sur les cuisses de la Vénus au miroir, c'est les lumières qui approchent. Hmm ? Vous la voyez la tête de Barroso maintenant ? Et vous les voyez les juristes autour des micros de là-bas si j'y suis. Bon, voilà pourquoi on est ensemble avec Frédéric Lordon. Jusqu'à 16h ou presque, dans la basse, j'y suis. La malfaçon, vas-y Fredo.
Après avoir présenté mon projet pour la France, voici donc venu le temps de vous présenter mon projet pour l'Europe.
En vérité, sortir de l'euro dit comme ça, c'est une formule qui n'a presque pas de sens. La question qu'il faut se poser impérativement, c'est sortir de l'euro pour faire quoi ?
Frédéric Lordon, Marine Le Pen est dans sa baignoire, elle dit vraiment bien ce Frédéric, qui parle comme moi et c'est formidable, on est entièrement d'accord sur tout. Racontez-moi un peu ce qui se passerait, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que la France, vous savez ce que ça veut dire, sorte de l'euro et qu'est-ce qui se passerait ce jour-là ?
La question qu'il faut se poser impérativement, c'est sortir de l'euro pour faire quoi ? Et c'est là qu'il y a des voies de sortie qui sont sacrément différentes. Et c'est là qu'on va voir évidemment réapparaître de saignantes différences entre la sortie façon extrême droite et une sortie façon progressiste.
Oui, parce que dans la façon de sortir extrême droite, il y a comme dans tout ce dans quoi baigne le discours du Front National, il y a quand même de la xénophobie, il y a quand même de l'autre dont on ne veut pas. Quand Marine Le Pen se définit contre la mondialisation, elle veut dire contre le reste du monde, elle veut dire contre les autres, elle veut dire contre les étrangers. Mais c'est fait d'une manière subtile par amalgame confusionnel.
En effet, je veux dire, ce qui est extravagant, c'est que ce fauné dont s'affuble le Front National, tout le monde le prend au sérieux. Quoi. C'est pathétique, et là encore, ça en dit long sur l'état du débat public et du commentariat éditocratique, qui lui, de toute manière, dès le début, a fait corps avec le néolibéralisme, à qui la chose critique est absolument et radicalement inconnue. C'est la raison pour laquelle on l'a toujours trouvé réunifié en masse, monolithique, derrière le parti du néolibéralisme européen, quel que soit le coût que les populations devaient en acquitter. Or, ce que je trouve extravagant, c'est qu'il n'est que trop clair, en effet, que le FN est un parti... Enfin, je veux dire, c'est l'extrême droite de toujours, enfin, en dépit de tous ces ripollinages, c'est un parti xénophobe et raciste, donc on sait très bien dans quelle direction ce parti veut entraîner la société. Et alors, le plus consternant dans cette histoire, c'est que nous en sommes réduits à un schème antinomique, mais pour esprit à deux neurones, dans lesquels nous n'avons plus le choix qu'entre la mondialisation et l'européisme tels qu'ils sont, ou bien, alors là il y a des variantes, hein, soit la Corée du Nord, soit effectivement le profil d'Auschwitz qui ressurgit. Alors, ça varie, hein. Si vous êtes protectionniste et que vous voulez vous opposer si peu que ce soit à la liberté de mouvement des capitaux, alors c'est que vous voulez nous enfermer dans une forteresse à Haut-Mur, à Barbelés et à Mirador.
C'est le repli nationaliste.
C'est le repli de ces gens frileux, etc., etc. Et ce qui est quand même invraisemblable dans cette histoire, c'est là qu'on voit où se marque une différence possible, la différence en vérité avec l'extrême droite, c'est de n'être plus capable de penser les rapports entre les peuples et les nations autrement qu'à l'aune de la circulation des conteneurs et des flux transfrontières de capitaux. C'est-à-dire, si vous voulez organiser la désescalade des interdépendances économiques, c'est-à-dire réduire le libre-échange sans frein, dont on sait les dévastations qu'il a produites. Si vous voulez vous opposer à la planète financière réduite à l'état de steppe balayée par les grands vents des marchés de capitaux, alors vous êtes quasiment un fasciste en puissance, puisque vous êtes pour le refermement national. Mais c'est une infirmité de la pensée qui est presque inimaginable de ne plus penser les rapports entre les peuples que sous le point de vue de l'économie. Or, on peut très bien faire l'analyse qu'une monnaie unique européenne n'est pas possible, et pour autant, continuer de poursuivre, et même d'approfondir, tous les rapports d'une autre sorte qu'économique qu'il est possible de nouer entre les pays, entre les nations européennes.
Ce qui se fait déjà depuis pas mal de temps.
Mais ce qui se fait déjà depuis pas mal de temps et qu'on n'aurait qu'avantage à poursuivre. Alors il y en a plein.
Notre histoire européenne ne se résume pas à des guerres et des conflits sanglants, même si le XXe siècle
n'a pas été avare.
N'a pas été avare, mais en règle générale, on ne peut pas non plus réduire notre histoire à celle-là.
Mais bien sûr, et tout ce reste-là est systématiquement occulté, alors que moi je soutiens que c'est ça la vraie vie entre les nations. Alors que je vais utiliser un terme qui est délibérément ambivalent ou ambigu. Le commerce entre les nations, ça n'est pas forcément le commerce commercial. C'est tous les autres commerces. C'est le commerce des étudiants, des artistes, des chercheurs, des touristes, de la connaissance mutuelle de nos histoires nationales, de la traduction mutuelle de nos littératures et de nos philosophies, etc., etc. Et cela, qu'est-ce qui s'oppose à ce que nous le poursuivions, à ce que nous l'intensifions, alors même que nous aurions cessé de faire monnaie unique? Je vous le demande. La réponse, on sait rien.
Ma génération à la trentaine bien tassée, blasée, n'a rien connu de glorieux par le passé. Les lendemains qu'on lui propose sont accablants. C'est vrai que l'utopie a pris du plomb dans l'aile sous Mitterrand. La rose s'est fanée devant ses yeux avant de mourir. Puis la violence des années bleues lui ont balafré son sourire. Enfant de la crise, elle en subit les séquelles. Elle n'a connu que la nuit, le soleil n'est pas pour elle. Elle a le spleen, elle a mûri de manière précoce. Horizon bouché, donc elle flippe pour ses gosses. Elle a grandi entre rigueur et austérité. Voilà près comme une vulgaire déclinaison de la précarité. Elle cherche enfin le sens de son existence. Loin sa mélancolie sur un comptoir d'étain. Témoin d'une époque cynique enclin au déclin. Elle assiste impuissante à sa lente décadence. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu. Et on est un con. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu. Et on est un con. Inflation, récession, répression, soumission. Elle oscille contre déception et dépression. Mensonge, pifton et trahison. Oui, c'est le même mauvais feuilleton qui passe en boucle à la télé. Vision de mur écran qui envahit son salon. Esselée, elle vit au mur de ses lamentations. Vision de blocs qui s'effondrent, de honte qui s'érige. De monuments aux morts, toujours plus haut qui lui donne le vertige. Elle panique, oui, elle consomme à crédit. Soigne son blues en un clic, la messe est dite. Boulémique, elle perd le nord et vend son âme aux banques. Pendant qu'au sud, les pierres s'attaquent aux tanks. Le soir insomniaque, elle angoisse sur l'oreiller. Elle a du mal à croire la force du nombre. Contre vents et marées noires, perd sa voix à la crier. Elle espère toucher terre avant que son avenir ne sombre. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu. Et on est un con. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu. Et on est un con.
Alors, Frédéric Lordon, avantages et inconvénients de la sortie de l'euro.
Alors, Le premier avantage est celui que j'ai dit, qu'un avantage vraiment macroéconomique qui se noue autour de la dévaluation et de l'amélioration de la compétitivité, donc des exportations. Il est absolument évident qu'on ne procède pas à une sortie sèche de l'euro. Il faut tout un tas de mesures annexes dont il faudrait faire méticuleusement la liste, et même avoir des scénarios gradués en fonction de la gravité des réactions qui viendraient des marchés financiers. Il est absolument évident qu'un retour à l'euro ne peut se concevoir sans, par exemple, la réinstitution d'un contrôle des capitaux degrés. Ah oui, non mais ça c'est l'évidence même. Mais enfin, je veux dire, les contrôles des capitaux, nous avons vécu pendant 40 ans avec ça, pendant les années fordiennes. Alors certes, j'entends bien que les masses financières qui étaient en circulation autour de la planète étaient infiniment moins grandes que ceux que nous avons maintenant. On me dira aussi, je le sais, que les contrôles de capitaux sont contournés, qu'ils fuient, etc., etc. Mais ce n'est pas un argument qui est tout à fait convaincant. Je veux dire, c'est comme si on renonçait à l'impôt au motif qu'il y a de l'évasion fiscale. On sait bien que l'impôt laisse échapper dans ses filets tout un tas de gugus. C'est pas pour ça qu'on y renonce. Bon, je veux dire, les contrôles des capitaux ne sont pas d'une efficacité parfaite, mais ils sont d'une efficacité. Voilà. Donc, et il faudra s'en servir à ce moment-là. Mais en vérité, pour moi, l'enjeu qui est lié, je reste dans le registre de l'enjeu économique qui est lié à la sortie de l'euro, tient à la reconstruction de fond en comble d'un modèle économique et d'un modèle de politique économique, et notamment des structures bancaires et financières. Donc c'est un point qui est tout à fait décisif. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. La sortie de l'euro, ça sera rock'n'roll. Il y aurait une sortie de l'euro à froid qui minimiserait les secousses. Ça serait un démantèlement coordonné de l'euro. C'est-à-dire les pays européens qui diraient: nous avons fait l'analyse de cette construction, pour toute une série de raisons, ça n'a pas marché, et nous nous sommes mis d'accord pour en sortir tous de manière coordonnée. Ça, c'est un message qui aurait des vertus profondément pacificatrices et tranquillisatrices sur les marchés financiers.
Envisageable ?
Non, très peu.
Donc nous sortons tout seuls, La France
sort tout seul. Il faut se réserver la possibilité de sortir tout seul. Nous n'allons pas souffrir, ni le peuple grec, ni le peuple espagnol, ni le peuple portugais. Les peuples ne vont pas souffrir ce calvaire indéfiniment. Je veux dire, là nous sommes partis, il faut quand même bien le savoir, pour au minimum une décennie d'austérité, de croissance molle. On n'est pas sorti du bois, n'est-ce pas ? Et encore une fois, le contrôle des capitaux est la mesure d'urgence pour atténuer les tensions spéculatives. Ceci se payerait dans une première période, alors longue commence, bien malin qui peut le dire, ceci se payerait d'abord d'une dégradation transitoire de la situation macroéconomique, de la même manière que lorsque l'Argentine a procédé à son défaut simultanément à sa dévaluation, il lui a fallu 18 mois pour revenir à la croissance. Bon, dont elle n'a pas fait grand-chose après, mais ça c'est une autre question.
Enfin, c'est une autre question quand même, on aimerait que vous nous disiez, mais alors au bout de 18 mois, la croissance et l'emploi vont revenir,
Mais bien sûr, mais ça, là, je peux le dire pour une raison extrêmement simple, c'est que nous nous débarrassons de la camisole de force des politiques d'austérité. Mais c'est hallucinant ce que nous récupérons comme marge de manœuvre. C'est hallucinant. Nous nous autorisons, par exemple, alors là, on est en plein rêve éveillé, c'est mon modèle fantasmé à moi. Nous nous autorisons à financer monétairement les déficits. Il ne faut pas dire que le financement monétaire des déficits est une panacée et qu'on peut y recourir tout le temps. Il se trouve que nous avons sous la main la situation présente qui est un cas d'école. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail théorique, mais c'est un cas d'école qui légitime et appelle le financement monétaire des déficits publics. Et on peut le faire dans cette nouvelle configuration. Alors on le fait, et on s'en porte bien mieux. On a des politiques de relance. Enfin, c'est un changement complet de paysage.
C'est comme avant, quoi.
Non, c'est pas comme avant. Il faut bien voir que cette opération de sortie de l'euro, par la restauration de la souveraineté politique, rouvre des degrés de liberté pour un agenda progressiste, et en particulier pour cheminer dans les directions que le fordisme, lui, était incapable d'explorer.
C'est le retour du politique dans l'économie, quoi.
C'est exactement ça. C'est vraiment que le politique reprenne la main sur l'économie.
Le froid est déjà bien installé à Reykjavik, mais le gouvernement vient de prendre une mesure qui devrait réchauffer le cœur des Islandais.
France 2,
car une grande majorité des ménages n'arrivent plus à joindre les deux bouts à cause de leurs crédits immobiliers. Et c'est au cœur de toutes les conversations.
9 décembre 2013.
C'est complètement ridicule. Alors qu'on rembourse tous les mois, notre dette continue d'augmenter. On ne s'en sort pas car nos salaires ne bougent pas.
C'est le drame de plus de 50 000 ménages islandais. L'emprunt était indexé sur l'inflation. Une inflation qui explose en 2008 avec la crise financière quand le gouvernement décide de dévaluer sa monnaie, la couronne islandaise. Résultat, depuis 5 ans, le montant des mensualités s'envole aussi pour la famille Arnaudottir.
Pour ce prêt-là, en 2004, on payait 68 000 couronnes, 420 euros par mois. Et en 2013, aujourd'hui, on paye 122 000 couronnes par mois, 750 euros.
Le gouvernement a donc décidé d'effacer une partie de l'ardoise que ses propriétaires de maisons ont envers leur banque, jusqu'à moins 24 000 euros par foyer en fonction du montant de son crédit. Mais l'État n'a pas l'intention de régler la facture tout seul. Le Parlement a notamment décidé de faire payer les banques. Il a voté une nouvelle taxe sur leurs bénéfices. En clair, pour le ministre de l'économie, ce n'est que justice.
Il me semble que les banques vont beaucoup mieux aujourd'hui et que leur portefeuille augmente. J'attends donc qu'elles coopèrent et qu'elles signent notre programme sur 4 ans.
Le temps est venu qu'on leur fasse le coup. Nous aussi. Bon, alors nous, c'est le nous du camp progressiste. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je conçois l'arme du défaut sur la dette souveraine, en partie ou en totalité, c'est à voir. Je conçois l'arme du défaut comme vraiment un levier politique de transformation radicale des structures économiques et comme l'amorce d'un processus de sortie du capitalisme. Parce que j'entends bien une remarque, une objection qu'on pourrait me faire et qu'on me fait souvent d'ailleurs. On me dira, mais oui, mais sortir de l'euro, refaire la politique économique, tout ça c'est très bien, mais
c'est
finalement...
C'est pas la révolution.
Oui, c'est un rechappage du capitalisme qu'on remet sur les rails et c'est reparti pour un tour un peu différemment. C'est exact, c'est vrai. Et après, il faut savoir serrer et hiérarchiser les questions. Hein. Moi, je voulais traiter de l'euro, pas traiter de la sortie du capitalisme.
C'est ce qu'on dit aux protectionnistes. Hein,
oui, je sais, mais je sais bien, je sais bien. Mais voilà, si on prolonge radicalement cette stratégie de sortie de l'euro en notre stratégie du choc par l'intermédiaire du défaut, là, il se passe des trucs, je veux dire. Là, il s'en passe en technicolore. Parce qu'un défaut sur la dette souveraine française est un événement tout à fait considérable. C'est un choc qui risque de mettre par terre tout le système bancaire et financier international. Et je dis, ceci est notre chance. C'est-à-dire, c'est l'oral de rattrapage. On a loupé les cris en 2008, c'est-à-dire qu'on a sauvé les banques sans la moindre contrepartie. Absolument. Il fallait les sauver, mais il fallait leur imposer je veux dire, la normalisation de fer. Nous ne l'avons pas fait. C'est un scandale à caractère historique. Cette fois-ci, c'est nous qui allons créer le choc et qui allons en profiter pour poser les conditions de la résolution du choc. C'est-à-dire, on fout les banques par terre, car c'est ça que ça produira. Et on les ramasse à l'appel et au petit balai. À leur valeur financière, à ce moment-là, c'est-à-dire zéro. Elles sont ruinées. Nationalisation intégrale du secteur bancaire par pure et simple saisie. Coût pour les finances publiques, zéro. Et nous nous retrouvons avec un pôle unifié, coordonné, du secteur public bancaire. Je dis que ceci ne doit être en aucun cas le dernier mot de l'histoire. On est bien mieux, à l'évidence, qu'avec un système bancaire privé sous la coupe d'actionnaires divers et variés. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Bon, je m'en suis expliqué dans d'autres textes. Je veux dire, le pôle public unifié du crédit a ses propres inconvénients et ils sont très réels. Hein. Mais c'est l'étape intermédiaire pour cheminer vers ce que j'appelle un système socialisé du crédit qui organiserait la dévolution du crédit sur des bases local, autonome, et nous ne nous racontons pas trop d'histoire, avec un premier caractère d'autogestion, c'est-à-dire en associant aux décisions bancaires toutes les parties prenantes, des banquiers professionnels parce qu'il en faut, des représentants du patronat, des représentants salariaux, des associations environnementalistes, des consommateurs, des représentants de la banque centrale, etc., etc. Donc sur une base locale et autonome, et plus étatique et concentrée. Et alors ça, quand même, si vous voulez, c'est taper le capitalisme au cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, qu'est-ce que c'est, hein, dans le capitalisme ? C'est la banque finance. Et là, on refait à neuf les structures de la banque finance dans un sens inédit. Alors c'est simplement le début d'un processus de sortie du capitalisme. Mais c'est pas simplement un truc, on sort de l'euro et on dévalue.
dans nos caisses, il n'y a plus d'argent. Afin de pouvoir nous gruger, on en profite à l'étranger pour traiter le français d'enfant léger. On a prouvé que c'était du bluff. N'oublions pas 89. Quand le franc vaudra 20 sous, comme il les valait naguère, dans une France prospère, nous oublierons nos misères. Seront pour nous quand le forum vaudra 20 sous.
Alors, bon, on a compris, Frédéric Lordon est complètement
zinzin. Mais il le sait. Hein.
Il le sait, les auditeurs le savent, et ils s'en habituent très bien, ils sont contents.
De toute façon, à la radio, on ne voit pas l'entonnoir sur la tête.
Oui, ouais, ouais, on ne voit pas la tête non
plus. Ça fait beaucoup pour le sérieux. Ouais.
Il y a quand même un problème là, derrière ça, Frédéric Lordon, c'est la nation. On dit oui, oh ben d'accord, on a compris, il veut qu'on se replie derrière, dans une forteresse, derrière nos barbelés, nos lignes Maginot, nos frontières, etc., derrière notre nation française. Mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une parenté avec Marine sur la nation. Et puis on entend au loin la voix d'Alain Badiou qui chante l'international.
Bon, là, je me lance, mais il y a beaucoup à dire, hein, quand même. Je veux dire, c'est vrai que cette question européenne est névralgique et douloureuse même pour la gauche. Je veux dire la vraie gauche, n'est-ce pas ? Bon, il faudrait faire une parenthèse pour expliquer que le Parti Socialiste ne fait pas partie de ce sous-ensemble, n'est-ce pas ?
La droite complexée, c'est ce que vous appelez la droite complexée.
Voilà, c'est ce que j'appelle la droite complexée. Donc, elle est hors champ.
Mais ça leur fait plaisir d'entendre ça aujourd'hui.
Oui. Oui, là, je veux dire, renonçons un instant au langage châtier. Ils se sont quand même pris une branlée de force neuf. Et, je ne sais pas, on va voir s'il reste...
Ce serait une faillite de la gauche si c'était la gauche.
Oui, on va voir s'il reste une ou deux synapses un peu irriguées dans ces têtes-là. Mais franchement, j'en suis pas sûr. Pourquoi est-ce que c'est une question difficile pour la gauche? Parce que précisément, ce fléau européen, on en a parlé tout à l'heure, pose la question de la souveraineté. Et pour une bonne partie de la gauche critique, la souveraineté, c'est vraiment devenu un gros mot. D'ailleurs, il est exposé à toutes les dégradations par les ismes. On dit c'est le souverainisme. Vous ne seriez pas souverainiste, dites-moi. Mais... C'est vraiment le stigmate. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à mon avis, dans cette affaire, souveraineté est un mot écran. Car la souveraineté, qu'est-ce que c'est? La souveraineté, c'est la capacité d'une communauté à se rendre consciente et maîtresse de sa destinée collective. Je demande qui, à gauche, peut récuser une idée pareille. La souveraineté, c'est la définition même de la modernité politique, qui est une séquence qui s'est ouverte depuis plusieurs siècles. Et la souveraineté politique a pour maxime la chose suivante, c'est nous qui décidons. C'est-à-dire, nous ne nous soumettons plus à des autorités tutélaires, à des dieux ou à leurs représentants sur Terre, les rois divins, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est ça. Donc si quelqu'un à gauche veut récuser cela, qu'il vienne me le dire, et surtout qu'il vienne me dire ce qu'il met à la place, si ceci ne lui plaît pas. Alors, là où les choses deviennent compliquées et commencent à faire problème avec l'idée de souveraineté, c'est quand on se pose la question de savoir qui est nous. Mais oui. Qui c'est nous dans « c'est nous qui décidons ». Et alors, c'est très beau d'avoir l'universalisme de l'humanité chevillé au corps, mais enfin, quand vient le moment d'organiser concrètement les choses, il faut bien s'y faire. Nous, ça ne pourra pas être tout le monde. Et dans tout le monde, il faut lire la chose littéralement. Je veux dire, ça ne pourra pas être le monde entier.
We the people.
Yes. Et oui, c'est ça
nous,
à l'origine.
Nous, le peuple.
Ouais. Donc, le « nous » est nécessairement limité. Ça ne veut pas dire qu'il est clos. Ça ne veut pas dire qu'il s'enferme derrière des barbelés. Mais ça veut dire qu'il est nécessairement fini. Et alors, là où le problème s'aggrave, c'est quand on est obligé de constater que, historiquement, la souveraineté s'est d'abord instanciée sous la forme de la nation. Bon, et c'est là qu'est l'effet d'écran. Le point de vue de la gauche n'a rien à redire et ne peut rien trouver à redire à l'idée de souveraineté, mais il se trouve que l'idée de souveraineté a été intimement liée à celle de la nation et qu'on n'arrive plus à décoller l'une de l'autre. Alors, l'idée de nation, le problème, elle déplaît à gauche parce que la gauche est de tradition internationaliste. Ce qui est un très joli vœu, je veux dire, d'être internationaliste, mais la question c'est de savoir jusqu'où on peut le tenir.
Mais l'internationalisme suppose qu'il y ait des nations.
Oui, par construction. Mais elle le pense comme un dépassement, donc il faudra lui trouver un autre nom. Et comme on sait, ce vœu de l'internationalisme, il a déjà connu de cruelles désillusions. P.P. Marx écrit dans le manifeste « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Et en 14, le marxisme internationaliste est persuadé que les prolétaires ne peuvent pas se faire la guerre patriotique chauvine. Ils vont se la faire. Et comment ? Je veux dire, bon, voilà. Alors, il est manifeste que, pour l'instant, le découpage des nations est plus puissant que celui des classes. Lorsqu'on organise les structures économiques de telle sorte qu'elles jettent les salariats nationaux les uns contre les autres, comment voulez-vous que des sentiments de solidarité se développent entre eux ? Je souhaite bon courage à celui qui veut aller expliquer aux salariés du secteur automobile qui étaient victimes d'un plan social qu'il doit se montrer solidaire de son camarade roumain qui a récupéré l'usine en question au terme d'une délocalisation bien menée. Parce qu'il ne faut pas demander trop aux gens, il ne faut pas leur demander plus qu'ils ne peuvent donner. Donc, moi, je crois qu'on peut vouloir autre chose que les éternelles déplorations de l'internationalisme abstrait, dont je crois qu'il n'a aucune prise sur le réel, et qu'il se condamne lui-même à des postures édifiantes. Alors, il n'y a pas longtemps, je dois le dire, il m'est apparu que cet internationalisme-là était le symétrique, mais quasi jumeau, de ce que j'appelle le jacatalisme.
Qui est la... Ça fait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps. Alors, le jacatalisme, c'est l'idée que... Bon, la mondialisation, ça déconne bien un peu de temps en temps. Mmh. Ça nous fait une crise financière par-ci, par-là. Mais on va la réguler. Ouais. Évidemment, on va la réguler au niveau mondial. Parce que sinon, ça ne serait pas la mondialisation. Alors, réguler au niveau mondial, vraiment, on le veut très fort. Et on est de très bonne volonté. Simplement, pour le moment, on est désolé. Ça ne va pas être possible tout de suite. Mmh. Bon. Mais patience. Ouais. Ça va venir.
L'euro survivra-t-il à la tourmente ?
LCI.
L'euro disparaîtra.
15 juin 2012.
Si nous ne sommes pas capables de mettre en place un fédéralisme budgétaire.
Jacques Attali.
Avec un impôt européen et des bons du Trésor européen, j'espère vraiment qu'il y aura une grave crise de l'euro que je souhaite, parce que je pense que ce n'est que dans une crise que les dirigeants européens finiront par cesser de dire tout va bien, en espérant simplement que la catastrophe arrivera après la fin de leur mandat.
Ma hantise, mon cauchemar, c'est que dans 50 ans, Jacques Attali soit encore vivant. Je veux dire, nous, on bouffera les pissenlits par la racine depuis longtemps, mais lui, si jamais il résistait,
si jamais par malheur il était plus vivant, on aurait ses livres, on aurait toutes les émissions auxquelles il a participé.
Ouais.
Donc ce serait pas un manque total. Voilà.
Alors donc, on retrouvera son équivalent fonctionnel dans 50 ans qui nous dira, on va réguler au niveau mondial. Mais patience. Mmh. C'est un peu comme l'Europe sociale, hein, vous notez bien. Mmh. Ça fait 20 ans qu'on nous la promet, ça va venir. Bon, ben, l'internationalisme révolutionnaire, j'ai peur que ça soit un peu pareil. C'est, surtout, n'essayons rien dans le cadre de la nation, parce que la nation, c'est abominable. Donc, on va attendre l'embrasement planétaire. Forcément, ça ne va pas se faire tout de suite, mais patience. Mmh. Ça vient. Alors, sauf que moi, patience, j'en peux plus. Si vous voulez, ça, vraiment, c'est fini. Et mon argument est double. J'ai d'abord un argument quasiment de bon sens paysan, qui est, il faut faire ce qu'on peut là où on peut le faire. Et il se trouve que ce qu'on peut là où on peut le faire, pour l'heure, eh bien, l'espace politique évident, c'est la nation. Et pour des raisons très bêtes à réénoncer, parce que c'est l'espace politique où la vie politique est la plus intense. Et tout simplement pour des raisons stupidement linguistiques. Moi, j'attends la manif à 1 million à Bruxelles, mais elle n'aura pas lieu. Parce que c'est loin pour un Grec ou pour un Portugais, Bruxelles, n'est-ce pas ? Donc, ceci ne
mais ça n'a pas eu lieu, surtout.
Ça n'a jamais eu lieu.
Non, mais ça n'a pas eu lieu. Mettons, reprenons comme repère, si on veut, 92, Maastricht. Voilà, on a 20 et oui. quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé de ce genre ?
Rien.
Rien. En termes d'Europe sociale, rien, qui était le rêve de Pierre Bourdieu.
Oui.
Vous vous souvenez que Pierre Bourdieu rêvait d'une Europe sociale des syndicats qui se réuniraient, qui se construiraient à l'échelle européenne. C'était son vœu.
Et ça, on a eu la Confédération européenne des syndicats.
Voilà. Oui.
Un désastre.
Il faut une nouvelle forme d'action transnationale.
Pierre Bourdieu.
Il est important de situer cette action à l'échelle européenne dans un premier temps.
26 janvier 2001.
Ce vaste mouvement pourrait être la force sociale qui, en se dotant d'organisation souple, aussi peu centraliste que possible, pourrait donc résister aux forces économiques dominantes et proposer une nouvelle utopie progressiste.
Mais pour comprendre pourquoi ça ne se fait pas, il suffit d'aller faire un tour dans un autre pays européen, faites un tour en Espagne, hors du tourisme, hors du soleil et des... Voilà. Et intéressez-vous un tout petit peu à l'histoire espagnole, à ce qui s'est passé dans les 30 ou 40 dernières années en Espagne. Vous allez vous apercevoir que c'est un pays que vous connaissez très mal, qui a une histoire bien particulière, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. Avant qu'il y ait une harmonie culturelle, des mémoires communes entre les Espagnols et nous, mettre ça dans une même marmite, c'est très compliqué. Donc, penser, suggérer une homogénéité culturelle européenne, ça me semble un leurre.
J'ai un autre argument historique sur l'internationalisme, ou ce que j'appelle l'internationalisme abstrait, en liaison avec la perspective révolutionnaire. C'est qu'on n'a jamais vu un mouvement révolutionnaire international coordonné, exempté. C'est-à-dire préalablement coordonné. Ça n'a jamais existé. Je veux dire, ce qu'on a vu en revanche, c'est la plaine s'embrasait. Ça, on a vu ça.
C'est-à-dire ?
La plaine s'embrase, le feu prend, le feu révolutionnaire prend, mais toujours à partir d'un foyer initial. C'est-à-dire que le feu prend d'abord quelque part, et puis après, il gagne, et il se répand. Je veux dire, le printemps des peuples, c'est ça. Le prolétariat parisien n'a pas attendu la décision d'un comité qui aurait produit préalablement la coordination internationale pour descendre dans la rue. Il y est allé. Et puis le truc a fait tache d'huile. Et alors après, oui, en Autriche-Hongrie, en Prusse, en Italie, etc. Donc, si vous voulez, je pense que c'est hélas là que nous mène l'internationalisme abstrait, celui qui refuse de faire quoi que ce soit dans le cadre national, c'est à cette posture de l'éternelle patience, par quoi il rejoint, certes à front renversé, mais tout de même, la position du jacatalisme. Et c'est pour ça qu'il faut sortir impérativement de cette terrible antinomie entre le national et l'internationalisme. Je pense que, en matière de transformation sociale, je ne crois pas au modèle de la coordination préalable, je crois au modèle de l'émulation. Ça se fait quelque part, et le spectacle donne des idées à d'autres. Voilà ce qu'il faut faire. Et voilà ce dont l'espace, un espace politique national, pas forcément celui de la France, les peuples ont leur génie propre pour ça, pour les secousses révolutionnaires, ce dont un espace politique national peut être le laboratoire et la finalité, donner des idées à d'autres.
Frédéric Lordon, il y a tout simplement aussi, dans chacun des pays européens, un attachement, pas forcément stupide, à la culture produite par ce pays, par cette nation, sa mémoire, son originalité, à quoi les peuples peuvent tout à fait être attachés, sans pour autant qu'ils soient des chauvins, crétins, repliés sur leur petite paroisse.
Moi, je pense surtout que le fait national est un fait résistant. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Quand on se raconte des histoires d'anthropologie politique, ça, en général, ça finit mal. Il y en a une qui n'avait pas à voir avec la thématique de la nation, quoique, je veux dire, c'est l'histoire de la révolution soviétique. Il y avait des erreurs de pensée, enfin, il y avait des, là aussi, il faut reprendre le terme, il y avait des malfaçons. D'ailleurs, parmi ces malfaçons, il y avait la méconnaissance du fait national. Je veux dire, on s'en est aperçu au moment où l'URSS s'est décomposée. Le problème des nations n'avait fait qu'être mis au congélateur. Et il s'est réactivé au moment même où l'URSS a commencé de se décomposer. Donc il y a un fait résistant avec lequel il faut compter, ce qui signifie qu'il ne faut pas tout y sacrifier non plus. Je veux dire, il faut penser ces points de résistance, ces points de flexibilité, là où on peut dépasser ce qui est, car il n'y a aucune construction humaine ou collective qui ne soit vouée à l'éternité. La nation est une forme historique, l'histoire politique en inventera peut-être d'autres. Voilà, n'insultons pas l'avenir de ce point de vue. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le fait national, résistant à l'heure actuelle, n'est pas voué, par essence, à dégénérer dans le nationalisme identitaire qu'on lui prête d'être. Je veux dire, je suis pas complètement crétin. Enfin, je vois bien autour de moi, et puis on en a parlé tout à l'heure, ces dérives nationalistes, identitaires, xénophobes, partout. Mais dans le potentiel du national, il y a la dérive nationaliste, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Mais cette dérive est contingente. Donc ce qu'il faut faire peut-être pour l'heure, c'est d'abord songer aux conditions dans lesquelles ces dérives-là peuvent être contenues. Et moi, j'en vois deux surtout. La première, c'est cesser de maltraiter les corps sociaux internes. Ce sont des populations exaspérées par les agressions économiques et sociales, qui versent par désespoir dans les pires stigmatisations ou les pires solutions qui lui sont offertes comme les seules possibles, puisque par ailleurs, tout le paysage politique a décidé qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est terrible. Je veux dire, on pourrait parler vraiment de persécution économique à l'endroit de certaines catégories sociales, en France par exemple. Donc, je veux dire, la première des conditions d'apaisement du fait national, c'est ça. C'est ramener les populations à des conditions d'existence matérielle tranquilliser, améliorer, stabiliser. Et déjà, on aura fait une bonne partie du chemin. Et puis, la deuxième de ces conditions, c'est celle que j'ai évoquée aussi tout à l'heure. Ne jamais cesser d'approfondir les liens, mais autres qu'économiques et sociaux, les liens culturels, les liens intellectuels, les liens touristiques, les liens de toutes sortes entre les pays, car cela est possible.
Merci Frédéric Lordon. Je rappelle le titre de son bouquin, La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique. Ça vient de sortir chez LLL, Les liens qui libèrent. Merci à tous. Je rappelle le bouquin de notre ami Pierre-Yves Bulteau, éditions de l'Atelier. En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission là-bas si j'y suis. Et sur le site la-bas.org, vous pouvez également réécouter cette émission. Et puis, il y a la page Facebook de la Basse J'y suis aussi. À la technique aujourd'hui, Maxime Anna et Stéphane Beaufils. Au montage, Jonathan Duong. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérère. Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la Basse J'y suis au 01 56 40 37 37. On n'est pas là demain. On se retrouve lundi à 15h pour un spécial Rwanda. On va beaucoup parler du Rwanda dans les jours prochains dans la Basse J'y suis. Et on revient 20 ans en arrière, nous étions, vous le savez peut-être, enfin en tous les cas on vous le rappellera lundi, les premiers sur certains charniers à cette époque-là, et on évoquera cette mémoire, ces instants et la figure de Valentine Iribagiza. Ce sera lundi à 15h dans la Basse J'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Donc pour l'instant c'est Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Salut. Eh, mais c'est un délire.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?
Qu'est-ce qui se passe ? Bah, on parle de justement... Bah, je sors de la Maison d'Afrique.
Et qu'est-ce qu'il y a à la Maison d'Afrique ?
Bah, il y a une association qui se crée. Ah. Je vais laisser parler mon ami en discuter. Donc, je vois qu'elle ne veut pas... Non, en fait, non, je vais vous l'expliquer. Bon. En fait, c'est une association de jeunes...
Faut pas le dire.
C'est secret. Ah bon ? Pour l'instant.
On est à la Maison de l'Afrique. Mais moi, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait le premier congrès de la diaspora africaine. Mm-hmm. Ici. Non ?
Ici.
C'est où ? Moi, j'en ai marre.
Vous avez mal calculé.
Parce que, attendez, en fait, peut-être. Moi,
mais vous voulez pas parler de votre association ?
Non.
Elle est là.
Bonjour à tous et bienvenue devant la Maison de l'Afrique. IREA, Institut de Recherche et d'Études Africaines. C'est ici ?
Oui, c'est ici.
Et qu'est-ce que vous faites ici ? Vous voulez pas parler ?
Attendez, je vais fermer la porte d'abord, après si vous voulez,
ah, on d'accord. Peut parler. Ah d'accord, ouais, super. Okay. Je vous laisse fermer la porte. Ne partez pas, restez un peu là. Vous n'allez pas le laisser tout seul.
Ah non, on attend.
Ah, vous allez attendre.
Bah, c'est en direct ?
Non. C'est en direct ? Ah,
comme... Non, je ouais, blague.
Dites-donc, mademoiselle, pourquoi vous vous moquez là ? Hein ? C'est pas sympa de se moquer de votre copain là. Mais quoi, ça
ah bah
peut...
Bravo.
Non, elle peut être en direct, hein. Mais vous l'avez mis dans un état, votre copine,
là. Non, il n'y a aucun problème.
Mais bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a que de la bonne humeur.
Que de la bonne humeur. On partage ça.
Alors, moi, oui. Je cherche le premier congrès de la diaspora africaine. Alors, hier, je suis allé à l'IRIS.
Ouais.
Ah, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Peut-être vous me renseignez. J'ai vu qu'il y avait aujourd'hui le premier congrès de la diaspora africaine.
Oui, au fait, ça a été reporté, malheureusement. Au 12 avril. Donc voilà, on a renvoyé des mails aux personnes pour les prévenir.
Ça devait se passer ici ?
Non, normalement, ça ne se passe pas ici parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça devait se passer à l'UNESCO. Hein.
Et vous, vous faites quoi à la Maison de l'Afrique ?
Moi, je suis bénévole à la Maison de l'Afrique.
Et qu'est-ce qu'on peut faire dans la Maison de l'Afrique ? Ça, c'est pour qui ?
La Maison de l'Afrique, c'est un institut de recherche et d'études africaines. Et c'est comme ça, c'est que ça veut dire IREA. Donc, voilà quoi. C'est un institut de recherche qui travaille sur l'Afrique. Il y a une université en ligne aussi. Donc, qui mène beaucoup d'actions dans ce sens-là, quoi, au niveau culturel en tout cas, dans l'idée selon laquelle il faut brasser, aller vers le vivre ensemble, plutôt que vers les l'opposition. Pardon.
Voilà. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que je suis venu. Donc j'ai compris qu'ici, il y avait une université en ligne, il y avait des débats, il y avait des expositions et un institut de recherche sur les études africaines.
Ouais.
Voilà. Enfin, vous m'avez dit que vous étiez bénévole, mais alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis étudiant, je suis en deuxième année d'une filière qu'on appelle PMCP, ça s'appelle Préparation au magistère au concours physique. Je viens ici aussi parce que je suis intéressé par les questions africaines, tout particulièrement ce côté diversité, le fait de parler des Afriques au lieu de l'Afrique. Voilà, des Afriques avec sa diversité, avec sa plus grande richesse qui est la culture. Il faut voir ça d'abord, la vraie authenticité, au lieu de parler des ressources naturelles, des ressources minières, voilà.
Et votre prénom ?
Amidou.
Amidou.
Amidou avec un H.
Amidou avec un H. Et vous venez de quel pays ?
Je suis divers, du Mali, si vous voulez, par ramification aujourd'hui, quoi, pour être simple.
Vous me demandez votre âge ?
J'ai 20 ans.
Bon, alors, il m'a dit qu'il s'appelait Amidou. Comment vous vous appelez ?
René.
Aïssatou.
Tigui.
Et Idirissa.
Et est-ce que vous venez tous du même pays ?
Non. Moi, je suis originaire du Sénégal, pour ma part.
Guinée.
Congo.
Vous vous retrouvez souvent à la Maison de l'Afrique ?
Quelquefois, de temps à autre.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu ?
Enfin, de retrouver une partie de notre identité à Paris.
C'est comme je vous ai dit, c'est la diversité, les Afriques. C'est la maison des Afriques.
Ça s'appelle, oui, sauf que ça s'appelle la maison de l'Afrique.
Oui, mais l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne traite pas d'un sujet, c'est pas un centre de communication géopolitique. C'est un centre qui s'intéresse aux sociétés, aux cultures, à l'écriture par exemple. On parle beaucoup de ce qui concerne l'art, tout ça. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'il faut voir dans la maison de l'Afrique. C'est ce qui fait la différence avec le côté safari ou exotique. Hein. C'est le côté culturel, la culture. La culture avec un grand C, même si vous voulez.
Et n'importe qui peut rentrer.
Oui, c'est n'importe qui peut rentrer dès le moment où la Maison de l'Afrique, c'est un endroit qui travaille sur l'Afrique. Donc normalement, si vous êtes intéressé sur les questions africaines, si vous êtes des amis de l'Afrique, même voilà, la Maison de l'Afrique, c'est ouvert. C'est l'Afrique qui se construit et l'Afrique qui est ouverte au monde aussi.
Et c'est ouvert tous les jours, la Maison de l'Afrique ?
C'est ouvert du lundi au samedi, de 10h30 à 21h. Bon, on va vous laisser continuer le travail.
Ben, merci beaucoup et bonne soirée.
Merci à vous aussi, monsieur. À très bientôt, au revoir.
Alors après enquête, j'ai appris que le premier congrès consacré aux diasporas africaines en France a été reporté à cause de l'actualité en Centrafrique. Mais le congrès aura bien lieu le samedi 12 avril à Paris, à l'IREA, Maison de l'Afrique, 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement.
Voilà. Malheureusement, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça va vite. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve lundi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h01. Le flash, Laetitia Gaillet.
Nouvelle alerte à la pollution aux particules fines dans le nord de l'Isère et le bassin lyonnais aujourd'hui. La vitesse est donc réduite dans ces secteurs de 20 km/h. Le tribunal de police de Rouen a condamné aujourd'hui la société Lubrizol à 4 000 € d'amende pour les fortes odeurs de gaz qui émanaient de son usine. La société, propriété du milliardaire américain Warren Buffett, a été reconnue entièrement responsable du préjudice causé en janvier 2013. En fait, les émanations ressenties, une forte odeur de choux et d'œufs pourris, étaient un composé inoffensif à faible dose utilisé comme marqueur du gaz de ville. Au lieu d'activer une pompe, un employé de Lubrizol avait actionné un agitateur dans un bac servant à fabriquer un additif pour huile de moteur. Elle aurait escroqué plus de 172 000 euros à la Sécu. On apprend aujourd'hui qu'une infirmière de 59 ans sera jugée à Versailles à la fin du mois. Elle est poursuivie pour donc avoir facturé des actes fictifs. Le Liberia dit avoir découvert aujourd'hui un nouveau cas suspect de fièvre Ebola. Contrairement au précédent, il n'est pas lié à la Guinée, le pays voisin en proie à une épidémie de fièvre hémorragique. L'homme victime de l'Ebola ou du virus Ebola est un chasseur qui n'a jamais été en contact avec une personne malade et qui n'est jamais allé en Guinée. En France, Marisol Touraine dit aujourd'hui avoir engagé des procédures d'alerte et d'information sur le virus. Ça concerne les vols en provenance des pays concernés à Roissy-Charles de Gaulle. Mais selon la ministre des Affaires sociales, aucun cas suspect n'a été détecté sur notre territoire. L'avertissement de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Elle recommande aujourd'hui aux compagnies d'éviter l'espace aérien de la Crimée, disputé par l'Ukraine et la Russie. Cet espace est jugé dangereux pour la sécurité des vols civils. À l'approche des vacances de Pâques et avec le relatif beau temps actuel, un chiffre qui donne à réfléchir. Près d'un quart des pratiquants des activités nautiques en France avouent ne jamais porter de gilet de sauvetage. C'est ce que dit l'étude de la SNCM publiée aujourd'hui. Quoi, on se rassure, quoique 84% de ces personnes interrogées et qui pratiquent au moins 5 fois par an des activités nautiques consultent quand même la météo avant de partir. Et puis il fallait oser ou en avoir envie. En Gironde, un homme de 35 ans a choisi aujourd'hui une méthode originale pour demander en mariage sa compagne. Avec la complicité d'une compagnie d'autobus, il a posté sous un abribus sa demande ce matin. L'abribus où précisément la jeune femme se présente tous les jours. La direction de la compagnie touchée par la demande du jeune homme avait accepté de jouer le jeu. La jeune femme a dit oui devant, paraît-il, de nombreux passagers et journalistes. Il paraît aussi qu'elle était gênée. On le serait à moins. 16h03 sur Inter.
Demain, à partir de 18h20,
todos europeanos,
alles europeer,
tous des Européens,
all Europeans,
une émission spéciale présentée par Hélène Jouan, Jean-Marie Colombani et Éric Valmire.
Étape espagnole pour tous des Européens, nous serons en direct de Madrid.
Fini la movida madrilène, la crise est passée par là.
Entretien politique avec le ministre des Affaires Européennes, les Espagnols sont-ils toujours aussi europhiles?
Les Espagnols sur un fil, comment trouver un nouvel élan et un autre modèle de société?
Demain soir, tous des Européens, une émission en partenariat avec Metro News.
Avec comme d'habitude le live, un Viva España des temps modernes.
Tous des Européens, demain sur France Inter, à partir de 18h20.
France Inter,
la voix est libre.
Et bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai David Grelzhammer, qui est un pianiste et chef d'orchestre. Il nous propose un disque mêlé avec des pièces de Scarlatti, donc le musicien de l'époque baroque, et puis John Cage, qui était né en 1912, qu'on considère soit comme un grand inventeur, soit un plaisantin, soit évidemment un théoricien en avance sur son temps. Il est tout cela à la fois, je crois, parce qu'il avait de l'humour. En même temps, c'était véritablement un homme de la musique. Pour l'instant, du piano aussi, avec Dana Ciocarli, qu'on aime beaucoup, superbe pianiste. Elle donne un concert ce soir même, c'est à 20h. C'est une saison musicale qui est concoctée par Monde France Culture et Continuo Musique. C'est à l'église allemande de Paris, dans le 9e arrondissement, 25 rue Blanche. Donc 9e arrondissement, métro Blanche, Liège, Saint-Georges, Trinité. C'est bien irrigué par là, en métro en tout cas, au programme du Schumann de Richard Strauss. Elle a invité la soprano Julie Chérier. Et puis en deuxième partie, que des bonbons, des petites pièces, des bis avec Florine Nicolescu au violon, Paul Staiku au piano. C'est l'église allemande, c'est tout à l'heure à 20h à Paris et ce sera tout à fait recommandable. Ça l'est déjà, je vous propose d'entendre Dana Ciocarli dans 3 des 6 danses populaires roumaines de Béla Bartok.
Thank you.
trois danses populaires roumaines sur les six de Béla Bartók, interprétée par Dana Ciocarli en concert ce soir, je le rappelle, à 20h. C'est la saison musicale de Monde France et Culture de Continuum Musique à l'église allemande, 25 rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. On trouve les billets un peu partout, enfin Ticketnet, ça c'est le réseau Ticketnet, chez Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, Le Progrès, Virgin Megastore, etc. etc. Donc c'est ticketnet.fr. Et là on a toutes sortes de possibilités, bien sûr. Alors il s'appelle Pépé, mais ça n'est pas un pépère, c'est un merveilleux virtuose de la guitare. Il vient de fêter ses 70 ans déjà, oui, on l'a connu tout jeune, on l'a connu vibrant, il l'est toujours, et un coffret de DK vient de paraître en hommage au maître de la guitare, Pépé Romero. On va l'entendre tout de suite, on va le retrouver ultérieurement dans d'autres émissions, bien sûr, mais là un petit coucou quand même, parce que le coffret vient d'arriver, et on va entendre un allegro tiré d'un concerto en do majeur de Vivaldi, écrit pour la mandoline au départ, mais transcrit par Pépé Romero. Pour